et bienvenue sur Termstat 2.1, c'est Léa et quel plaisir de vous retrouver comme chaque samedi sur Radio Alpha. Alors au programme de la musique, des infos, de la bonne humeur et une équipe de folie. À mes côtés, Tony, Julie et Edouard.
Bonne tarde.
Salut tout le monde.
Vous allez bien? Ah, je sens timide là aujourd'hui.
Ah non, pas du tout. Alors, moi jamais.
Non,
mais c'est Edouard là, il faut qu'on le mette dedans, tu vois, le pauvre.
Mais non, mais je commence.
Il a pas assez parlé la semaine dernière, là cette semaine tu vas parler.
Edouard, okay. C'est son deuxième samedi en tant que technicien, on va pas trop lui mettre la pression.
Si.
Il est encore là.
Ouais, et oui. Ça va, on l'a pas,
pas
dégoûté.
Il s'est pas enfui.
Ouais.
Et comme vous le savez, hein, chaque samedi, lors de chaque émission, on reçoit un invité. Et ce samedi, on a la chance d'être aux côtés de Carlos Ferreira, qui est l'un des plus grands clarinettistes de notre époque. Salut Carlos!
Salut!
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah,
merci à toi, merci à vous tous pour l'invitation.
On est très contents de t'avoir aujourd'hui. En plus, franchement, cette année pour toi, c'est une grosse année avec plein de projets. Alors, tu es clarinette soliste, c'est ça?
Oui,
à l'orchestre. Exactement. National de France, qui est l'un des plus grands orchestres au monde. Mmh. Et à côté, tu es professeur. C'était ta première journée hier.
Ouais, exactement. J'ai commencé hier en tant que professeur de clarinette au Conservatoire de Versailles.
Ça a dû bien passer.
Ouais, très bien passé. Les élèves sont motivés pour l'instant. Après, c'était le premier cours.
Ouais,
on verra
l'instant.
Au cours de l'année.
Si c'était comme moi au Conservatoire, ça dure pas toute l'année.
Ah hein. Bah, je sais. Je l'espère.
J'en ai quand même fait 7 ans. Ouais.
J'espère que t'auras pas des élèves comme Julie.
Ah ouais, j'espère aussi.
Moi, au moins, je suis gentille.
Ah ouais.
Heureusement, pour maintenir un peu la bonne ambiance. En cours, on va en parler justement de tes projets, de ton début en tant que professeur.
Oui.
Sur les techniques peut-être, je sais pas, que tu vas appliquer au cours de l'année, sur comment ça se passe tout simplement un cours de clarinette. On va en reparler au moment de l'interview. Mais avant, Carlos, je me disais, est-ce que ça te dit de nous faire un petit morceau en live?
Oui, avec plaisir. Alors, je vais interpréter un arrangement de la musique de Carlos Pérez, donc qui jouait la guitare portugaise avec Amalie Rodrigues. Et voilà, j'ai pas autant de cordes avec ma clarinette, mais j'ai fait un petit arrangement que je joue souvent quand je joue un peu partout en Europe en soliste. Donc,
et
voilà.
C'est la première fois en live. En
plus. Ah, ça sera la première fois en live.
Première fois en live. On a hâte de découvrir Carlos.
Allez, c'est parti.
Il s'installe.
Thank you. félicitations.
Merci.
Carlos Ferreira en live clarinette soliste à l'Orchestre National de France nous a accordé un morceau en direct pour Thème Stade de France. Merci Carlos.
Ah, merci à vous.
Magnifique.
Merci.
J'aurais fait trois crises d'asthme.
C'est vrai, moi aussi.
On l'a remarqué. Comment tu gères ta respiration, justement?
Ouais, ça, c'est la plus grande difficulté.
C'est du sport, j'ai l'impression.
Ouais, c'est un peu de sport, c'est un peu de sport. C'est vrai que je me souviens quand j'étais étudiant à l'école de Escola Superior de Música de Porto, il y a quelques élèves de la fac médecine et tout ça qui sont venus faire des essais avec nous par rapport à l'air et tout ça. Et apparemment, notre capacité était assez extraordinaire, même comparée à celle des nageurs.
Alors moi déjà que j'ai pas d'endurance.
T'as bien fait de quitter le conservatoire.
Oui,
J'en ai un peu, ouais. J'ai un peu perdu.
Il y en a besoin aussi, hein, parce que j'ai vu, il touchait tous les boutons sur sa clarinette avec que des doigts, là.
Et moi, je comprends pas qu'est-ce qui correspond à quoi. C'est un truc.
Pour prendre le souffle et ça.
Je comprends pas comment tu fais des notes.
En plus, il faut couvrir les trous et tout ça. Plus, c'est ça qui est compliqué quand on est petit. Moi, j'ai une histoire. Quand j'ai commencé mon tout premier cours, en fait, j'ai essayé de faire une note, ça a fait des bruits pas possibles. J'ai commencé à pleurer, j'avais 5 ans. Je voulais plus jouer, c'était la crise.
Mais c'est vrai que. Enfin, quand t'as des petites mains, comment tu fais, quoi?
En fait, il y a d'autres clarinettes. Donc, après, mon professeur m'a donné une clarinette qui est à la moitié de cette taille. J'adorais. Après, je voulais plus m'en débarrasser. Après, il fallait changer à celle-ci. Et moi, je pleurais parce que je voulais pas passer à celle-ci.
Mais justement, bon. Tu vas nous en raconter des anecdotes au moment de l'interview. On va reparler un peu de ton parcours. Oui. T'as commencé à 5 ans. Donc, on a hâte de découvrir tout ça. Mais avant, c'est le moment du blind test. Voilà. Avec Edouard, comme chaque semaine, on doit découvrir le titre.
Mais c'est ton moment.
C'est ton moment. Et d'ailleurs, un peu plus cette semaine, parce qu'on va découvrir un peu ton style, un peu ce que t'écoutes.
C'est ça, je me suis offert un peu plus de liberté cette semaine avec des musiques un peu plus personnelles que j'écoute, que je pourrais écouter au quotidien, donc j'ai hâte de vous faire écouter.
Okay, est-ce qu'on a le droit de juger?
Je ne te permets pas, Tony.
Mais en toute façon, on a déjà commencé à découvrir son style avec les stories musicales et on dirait vraiment vos styles à tous les deux. Hein.
C'est
moi, je vais être toute seule maintenant.
Il y a beaucoup de latinos, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
J'espère qu'on va pas être déçus.
Je pense pas.
On peut commencer avec le premier extrait.
Allez.
C'est parti.
David Carey, là.
Évidemment.
Ouais.
On connaît la voix.
Joji. Joji, ouais.
C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez le nom de la musique?
Snell.
Moi, je pense que ça doit être le nom d'une fille.
C'est Mente.
C'est Mente, exactement. Alors, la musique est sortie hier.
J'étais là à 17h sur YouTube, jeudi. Hein.
C'est ça. Elle est sortie hier sur les plateformes, donc fallait être actif.
Ah. Waouh.
Bon, ça commence bien.
Voilà.
Ça commence bien.
C'est bien de commencer l'année avec une musique comme ça fait plaisir, je trouve.
Ouais, ça va nous accompagner, là, je pense, cette année.
C'est quoi,
cool. Tournée. Pas mal de vues, déjà, non, Edouard?
C'est ça, 225 000 vues.
Attendez, j'en rajoute ce soir.
24 heures.
C'est impressionnant.
Impressionnant. On passe avec la deuxième musique. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est pas pour moi.
C'est l'homme à la moustache.
C'est l'homme à la moustache.
Camilo.
C'est ça, exactement.
Je connais quoi, mais je connais pas du tout.
Tu connais pas?
Tu connais pas Camilo?
Non, Camilo, pas, oui, mais la musique.
J'ai pas le titre non plus. Hein.
Alors, c'est un feat avec un chanteur indien qui s'appelle Diljit Dosanjh. J'espère que je prononce bien. La musique s'appelle bien Palpita. Donc, c'est un mélange un peu entre deux styles, la culture indienne et la culture colombienne.
Sympa, ça. Okay.
Sympa le mélange.
Ça, c'est le genre de choses qu'il faut dans la musique.
Mm-hmm. Donc, là, on découvre un peu l'univers d'Edouard, vous voyez?
Oui, moi, je connais pas. Ouais. Colombie Inde, ok.
C'est ça.
Vas-y, le voyage continue.
Ouais, on enchaîne avec la troisième musique. Bon, les deux premières n'étaient pas si simples. On va voir si vous allez trouver la prochaine. C'est parti. Le stade où je dirais à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. Tu peux garder mon hoodie.
façon, je l'ai jamais aimé, je vais faire de grands
choses. Alors, moi, j'ai vu Edouard danser.
Carlos, je te rassure, je n'ai pas idée de.
Ah, ok, ok.
J'ai jamais entendu ma vie.
Je me sentais tout seul.
Je te vois à côté, je te rassure.
Moi, je crois que c'est sa musique.
Moi, je
ne
connais pas. J'ai l'impression de la connaître, mais je la connais pas.
En fait, ça me fait. Je vais être honnête, je sais que c'est pas eux, mais ça me fait un peu penser à 47 Terres. Mais je sais que c'est pas eux.
C'est un peu le même style, peut-être mélodique, mais il est tout seul en tout cas, c'est pas un groupe.
Oui, genre.
Il est tout seul.
Moi je connais pas en tout cas.
C'est français ?
Oui, c'est français. Mais.
C'est un.
Non, il peut être belge.
C'est un Canadien.
Ah,
ouais. C'est un Canadien.
Tu vois,
c'est un
Québécois. Ouais, en tout cas, c'est. Ça parle beaucoup, mais finalement, j'ai une bonne question.
Écoute,
hein.
Moi je sais reconnaître une langue, c'est la langue française.
C'est Fred's.
Il n'y avait pas d'accent québécois.
Où est-ce que tu nous emmènes, Edouard ?
Bah, en fait, j'ai pris quelques libertés cette semaine, Léa.
Mais c'est bien, il faut. C'est bien.
La Colombie, l'Inde, le Canada, on a fait le tour du globe.
C'est ça. Exactement.
Attends, il manque l'Asie.
Il y a eu l'Afrique aussi, déjà.
Ouais, avec Judy.
On enchaîne avec la quatrième extrait.
Mais attends, tu nous as pas dit le titre.
C'est, ah oui, pardon. C'est, le titre, c'est Le Stade.
Ok, je vais la rajouter à ma playlist.
C'est bon. Voilà.
Je connais pas du tout, c'est bien.
Quatrième extrait.
Ça, c'est facile. Olivia Rodrigo, Good For You.
Voilà.
Avec un 4.
Il nous a un peu sous-estimé, là.
On l'a passé tellement de fois.
Non, là, il s'est dit les pauvres.
Ouais, non, j'ai voulu revenir un peu plus sur du classique.
Ça, c'est au cas où ça, on l'avait pas fait d'avant.
Je pense qu'il cache quelque chose derrière, quand même.
Ouais, là, je partage.
Pour rien.
Non, parce que elle vient tout juste d'annoncer les dates de sa tournée mondiale.
C'est vrai.
Donc elle va commencer aux États-Unis en février 2024, mais elle sera aussi en Europe, à Paris notamment le 14 et 15 juin.
Et tu nous invites ?
Je vais voir si je peux avoir des places.
Est-ce qu'il y a encore des places même ?
Je crois que c'est ouvert.
Ouvrir, ouais.
Ça s'est ouvert il y a pas très longtemps la billetterie, donc ouais. tu peux aller checker, Julie.
Sous-entendu, il te paiera pas la place.
Ouais.
C'est bouillant. Tu peux aller regarder. Super. Tu vas aller regarder de ton côté.
Merci en tout cas.
Hein. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'elle allait être au Portugal aussi. Et c'est la première fois qu'elle va jouer au Portugal.
Ah bah, tant mieux.
Le 22 juin, si j'ai bien regardé, 2024.
Oui. Bah, peut-être qu'elle tombera amoureuse de ce pays comme tout le monde.
Le 22 juin, quelle belle date.
Une date au Portugal.
Quelle belle
oui,
date.
Et le jour de l'anniversaire de quelqu'un dans cette équipe.
Quand je vois le succès qu'ont eu. Bon, après, c'est pas la même base. Hein, c'est les Coldplay, c'est bien plus célèbre. Mais qui ont enchaîné les dates au Portugal. Et les gens n'étaient pas satisfaits parce qu'il n'y avait pas assez de place.
Ouais.
Alors là, un seul concert.
Mais c'est parce que c'est le début. Elle n'est pas encore amoureuse du pays. Il faut y aller petit à petit, tu vois.
Bon courage, faut avoir des places. Hein.
Ouais.
Bon courage. Avant-dernier titre du blind test, c'est parti.
Là, tu copies
Soraya,
Tony, là.
Ça, on est obligé de l'avoir.
Soraya Rams, Apology, Mouda.
Là, tu copies Tony. Hein.
Incroyable.
Je pense que
c'est un peu le son de l'été aussi, ça.
On a sorti un morceau hier.
Ouais.
Est-ce que Carlos avait cette musique ou pas ?
Non, je connais cette femme.
Ah, Carlos, on va te faire une petite playlist.
Ouais, il faut.
Une playlist tant plus
faire de la qualité.
Ouais. T'écoutes quoi généralement, Carlos, tiens ?
En fait, un peu plus de jazz, un peu plus de blues et tout ça. Voilà. Pas trop de classique, non, parce que je fais déjà beaucoup.
Ouais, ça suffit.
Ouais,
ça
suffit, franchement. Plus du jazz.
Oui, exactement.
Juste pour la petite info, Apology a sorti un EP la semaine dernière. Je sais pas, Tony, si tu l'as écouté, avec 6 nouveaux titres,
en feat
avec Monsieur Marley.
Ah, pas mal ça.
Mais j'avais même pas eu l'info pour tout te dire. C'est pas que j'ai pas écouté, c'est
mais
que je savais pas.
Heureusement que Edouard est là.
Mais oui.
Edouard est là pour ça. Merci, Edouard.
On enchaîne avec le dernier titre qui va faire remonter les souvenirs pour certains, je pense. C'est parti.
Ce qui m'a toujours dérangé, ça comme un resto, je pouvais tout lui payer, mais dès qu'elle me parlait, elle m'en foutait, elle avait les mots.
Ah, c'est
ce qui est.
Elle avait les mots, exactement.
Oui, mais l'original, oui, mais on aurait dit la
mais
voix de
Mais c'est pas une femme, normalement.
Bah, il a remixé justement avec, donc, pour une femme, donc elle avait les mots, au lieu de il avait les mots, de Sherif Alouna.
Ah, voilà.
Et donc, c'est qui ?
C'est Kaza.
Ah, oui.
Voilà, spécialiste un peu des musiques un peu lourdes.
Oui, mais aussi, moi, je connais que l'original, moi. C'est pas cool de vouloir me piéger comme ça.
Touche pas. Bon, là, tu t'es rendu compte que c'était pas Sherif Alouna, quand même.
Oui, bah,
rassure-moi.
Normalement, c'est une femme qui chante.
Ah, même avec un nez bien bouché, je pense qu'elle n'arrivera pas à ces notes-là.
On ne sait jamais, hein. sais, maintenant aussi, avec les intelligences artificielles, on peut tout faire.
Merci en tout cas, Edouard, pour ces découvertes. Cool. On va rajouter Fred's alors à notre playlist.
Ouais,
hein.
Pas de problème. Le stade.
On va la rajouter. On va finir avec la musique de David Carrière. On l'a pas écouté en entier. On s'écoute en entier cette fois-ci avec Joji. Ça s'appelle Mienta et c'est sorti hier. Écoutez.
Que nada te prenda. Mas se vies para ficar, somos dois. A crer que isso compensa. Quero acordar e deitar-me ao teu lado até que amanheça. Oh, yeah, yeah, yeah. Então vai, fica e relaxa um pouco. Quero ver mais que o teu corpo. Sei que errei nesta vida, mas quem diria que eu sou refém. Coração quase arrebenta. Tua boca tem sabor a menta. Oh. E só com um beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. Yeah. Só com um beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. Só penso em te encontrar. Sem ti já não posso ficar. Vem me abraça e me beija daquele jeito. Nem é largo que é bom lugar. Só tu pra me fazer mudar. Tenta planear viver uma boa vida inteira. Nós temos algo especial. Dizem que é fora do normal. Quero viver pra sempre. Pra ver te dançar pra mim. Quero ver te dançar pra mim. Gela, gela. Eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. Só com um beijo dela, dela. O coração congela, gela. Eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. Sinto saudades do teu perfume. Quero pular no teu body. Só de pensar que és minha pele arrepia cada vez que eu olho pra ti. Sinto saudades do teu perfume. Quero pular no teu body. Só de pensar que és minha pele arrepia cada vez que eu olho pra ti. E só com um beijo dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. Dela, dela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela.
Merci d'être avec nous sur Radio Alpha et c'est au moment de faire un point sur l'actualité sportive avec notre grand journaliste sportif Tony. Tony, t'es en forme cette semaine.
Non, pas trop parce que c'est pas moi qui suis grand cette semaine.
Ni la semaine prochaine.
Je ne suis plus grand. On m'a dépassé en taille dans le studio. Mais par contre, le Portugal s'est largement imposé contre le Luxembourg, c'est eux les géants. Ça fait maintenant 6 victoires en 6 matchs dans cette campagne d'éliminatoire pour l'Euro 2024, mais surtout l'info à retenir, cette victoire historique 9-0, c'est le plus large succès de l'histoire des Suissons.
T'as regardé un petit peu, toi, Carlos, le foot?
Ah ouais, bah oui. Moi, je suis un passionné de foot. Je regarde tous les week-ends. Là, je rate des matchs de Premier League, mais bon, c'est pas grave.
Et il y a Pedro Neto qui est en train de faire un festival contre Liverpool, si jamais ça intéresse.
Ah ouais?
Et ouais. On est à la radio, mais on garde toujours un petit œil sur le sport à côté.
Ah, très bien.
Et les sports, justement, les sports collectifs, encore une fois, avec le ballon ovale, cette fois-ci, la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France, mais surtout, le premier match du Portugal dans la compétition, c'est ce samedi après-midi contre le Pays de Galles. Coup d'envoi à 17h45 à Nice, une rencontre que vous pourrez regarder sur la chaîne M6. Et en attendant, des nouvelles aussi de l'équipe de France. Tout va pour le mieux pour les Bleus qui ont remporté leur deuxième match de la compétition après la Nouvelle-Zélande. C'est l'Uruguay qui s'est présenté sur la route des tricolores. Même résultat ou presque avec une victoire 27-12. Et on passe maintenant au sport individuel. Et la Vuelta, le célèbre Tour d'Espagne de cyclisme. Et une bonne nouvelle, la victoire d'étape de Rui Costa dimanche dernier. C'est un succès qui ne se voit pas au classement général, malheureusement, puisque le coureur portugais occupe la 46e place du classement. L'arrivée à Madrid est la fin de la course, donc demain. Et enfin, des nouvelles de notre invité Ruskov Domingue, le combattant de MMA, qui rentre sur le ring à 17h au Palais Saint-Saveur de Lille. Ouais. L'athlète portugaise sera opposée à Bala et on lui souhaite évidemment de donner plus de coups que son
anniversaire. Et d'ailleurs, c'est sold out. Hein. Donc,
félicitations à eux. On vous souhaite beaucoup de courage et de réussite. On croise les doigts, on regardera.
Allez.
Ah bah, ouais.
C'est plus facile à regarder que de le faire celui-là.
Ah,
comme notre rugby ou MMA, je passe mon tour pour l'un et l'autre.
Moi, je vais regarder le rugby plutôt. Mais bon, je pense qu'il va falloir que je garde mes larmes parce que. Non, mais il faut on touche du bois,
Exactement.
Faudra les garder en croise les doigts en tout cas pour nos joueurs. On va écouter Ateus Ornaciel de David Moka et Diego Coronas. On se retrouve juste après pour l'échange de la semaine et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est le retour des infos insolites.
Super.
Tony est ravi.
Allez, on se retrouve juste après. Ateus Ornaciel, vous vous quittez dans l'air. Baby, please, don't think you're me.
Tô levando o meu coração no metro do paia. Gosto de sentir o teu corpo queimar. Baila, baila contra mim. Baila contra mim. Mexe-te bacana. E tu me fazes sentir tão bem, tão bem. Já sabes que eu vou ficar contigo. Até o sol nascer. Eu vou ficar ao teu lado. Baby, please, não tenhas. Tu brilhas, mexe devagar contra mim. Tá cerco do velém, um copo de tequila. Pra ti nunca tô cansado. Um beijo no pescoço antes de provar os teus lábios. Até o sol nascer, contigo vou bailar. Acabamos na areia, nossos dois é especial. Please, não tenhas medo. E tu me fazes sentir tão bem, tão bem. Já sabes que eu vou ficar contigo. Até o sol nascer. Eu vou ficar ao teu lado. Baby, please, não tenhas medo. Yeah, oh, yeah. E debaixo das estrelas. Toda noite vamos brilhar. Toda noite vamos brilhar. Yeah, oh,
toujours sur Radio Alpha pour Termstadt 2.1 et c'est le moment de l'échange de la semaine. On célèbre le retour des infos insolites. Et oui, on a été servi cette semaine, alors je vous résume ce qu'il ne fallait pas rater. La première, vous l'avez sûrement vu sur vos réseaux sociaux. Exactement, tu m'as devancé. Je vous parle de l'inondation de vin rouge dans le village de Saint Lourenço do Bairro, au centre du Portugal. Ça ne pouvait être qu'au centre, hein, j'ai envie de dire.
Je ne répondrai pas, c'est l'heure de provocation.
D'accord.
C'est peut-être le rêve de certains. Vous avez bien entendu, une inondation de vin.
Je ne sais pas si c'est un rêve.
Ouais, je ne suis pas sûr. Ça reste une inondation. Hein.
Ouais, et puis il n'est peut-être plus très bon à boire non plus, tu vois.
Bon, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle d'inondation.
Après, au moins, tu vois, tu peux te dire que tu peux faire comme Obélix, je tombais dedans quand j'étais petit.
Oui.
Et pour ceux qui n'ont pas suivi, cet accident, il a eu lieu dimanche dernier après l'éclatement de deux cuves. cuve dans une distillerie du secteur. C'est vrai, Tony, oui, ça s'est réellement passé. Et au total, 2,2 millions de litres de vin rouge se sont déversés dans les rues. Soit presque l'équivalent d'une piscine olympique.
Non, mais pas grave.
Le gaspillage.
Mais bon, je vous rassure, aucun blessé. La rivière du village n'a pas été polluée. C'était la plus grosse crainte.
Ah oui,
on a eu quelques dégâts matériels, notamment dans les caves.
Forcément.
Et l'alcool, alors ?
Eh bah.
Est-ce que tout le monde était un peu.
Gaspillage.
Pompette ?
L'alcool a été. Je sais pas, j'ai vu sur Twitter certaines personnes dire qu'il fallait se ramener avec des pailles dans les rues. Bon.
Ah ouais?
Moi je l'aurais pas fait. Hein.
Quand même. Bon. En tout cas, sache que mon père a pris l'avion tout de suite quand il a su ça pour remplir ses bouteilles de vin.
Ah, c'était le bon plan. Faut bien le traiter après le vin parce qu'il était quand même dans la rue. Quoi.
Bah, il a été acheminé vers une station d'épuration, donc je sais pas ce qu'il va faire de ce vin-là. Ou pas. Seriez-vous prêt à boire ce vin?
Ni Siloa ni un autre déjà, mais.
Déjà que je suis pas très très bon, alors là, celui qui a traîné dans la rue.
Même pas dans du vinaigre.
Ouais. Mais je sais pas l'odeur qui est restée dans la rue.
C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, il y a une odeur.
Que tout le monde est devenu pompette avec.
Justement, je me suis demandé, il y a une odeur, mais pas tant que ça, parce que c'était du vin de bonne qualité, comme l'a expliqué justement le producteur. Donc...
Bah, il va pas dire l'inverse.
Ouais, c'est clair.
Alors, en fait, il ne va pas mentir non plus, mais t'imagines
si les témoignages qu'il
y a eu, il y a eu de l'odeur, mais.
T'imagines si le producteur il avait dit, alors en fait, c'est un peu mauvais.
Je serais pas allé vérifier si le vin était bon.
Je suis pas une spécialiste.
Prochaine info, on continue avec les infos insolites. Mais je voulais savoir avant si vous, de votre côté, vous avez entendu, vu une info décalée cette semaine.
Moi, j'ai vu celle
le vin,
de...
Non,
moi j'ai vu, bah, c'est pas du tout portugais, c'est espagnol, la journaliste.
Ah oui.
Triste info.
C'est pas insolite, bah, c'est déplacé.
Il s'est fait agresser.
Oui, mais là où j'ai trouvé que c'était une, entre guillemets, une bonne info, parce que c'est pas cool ce qui lui est arrivé, c'est la façon dont de l'équipe. A réagi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une journaliste qui était en direct
sur une chaîne télé espagnole,
et en duplex, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et il y a un homme qui est venu l'agresser sexuellement, lui faire des attouchements, on va dire, en direct.
C'est une agression, hein.
C'est le cas. Et donc, le journaliste qui était lui sur le plateau a directement réagi, et d'ailleurs il a pu l'homme a pu être interpellé par la police. Donc franchement.
Très belle réaction, en tout cas, qu'on a
parce qu'en plus, elle s'excusait et elle n'allait pas le dire, quoi. Elle n'allait pas dire
autre chose.
Et en fait,
exactement.
On voit bien que les femmes, maintenant...
Donc elle a continué comme si de rien n'était.
Mais c'est comme ça que
malheureusement,
beaucoup
c'était
de
la bonne
filles réagissent.
C'était la bonne réaction
Et vraiment, le journaliste, il a fait, mais attends, là, il t'a...
Il vient de faire ce qu'on a vu.
Et il vient de faire ça. Ouais. Elle a fait, oui.
Et vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux.
Et le caméraman, quand même... qui a bien zoomé sur la tête de l'homme en question pour qu'on puisse bien l'identifier.
Ah ouais. Non,
très bonne réaction.
Franchement, réagissez tous comme ça. Si
mais vous je vous parle d'une enfant un peu plus joyeuse quand même.
Vas-y.
Si je vous dis qu'un chien a signé un CDI.
Incroyable. Un chien.
Un CDI.
Oh. Incroyable. En France.
Quelqu'un peut en trouver
un pour le mien.
Au Portugal. Oh,
bon.
Mais les meilleurs.
Qu'est-ce que.
Déjà, on va l'appeler par son nom. Il s'appelle Boris Baggy, mais pour les fans de chiens, c'est un chien croisé de race Sharpei. Et il a un contrat de travail depuis le 4 septembre avec la municipalité de Gondomar au Portugal. Anthony, c'est pas un mannequin.
Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, pour vous expliquer un peu, l'histoire a débuté un peu plus d'un mois lorsque sa maîtresse, après avoir été expulsée de chez elle, se rend à la mairie pour demander de l'aide car le nouveau propriétaire justement de l'immeuble n'acceptait pas les animaux de compagnie. Donc cette femme, elle toque désespérément à la porte de la mairie de sa ville et les employés, bien évidemment, ils sont émus par cet appel. Ils ont commencé à accueillir Boris, le chien, à la mairie et même chez elle le soir en se relayant. Et après une période d'essai de 15 jours qui s'est très bien passée en cohabitation avec les employés justement de la mairie, ce chien a réussi à trouver sa place et il a décroché un contrat de prestation de service pour une durée indéterminée. Mais à votre avis, quel est son poste?
C'est pas la première question que je me pose, là. C'est est-ce qu'il est rémunéré?
Ah oui.
De 1, de 2, combien? Et de 3, à qui va l'argent?
Et est-ce qu'il cotise à la rentrée?
Est-ce que je peux avoir l'argent?
Il signe ses chèques.
Est-ce qu'on peut faire pareil pour mon chien et c'est moi qui reçois l'argent?
Première réponse, donc déjà le contrat, c'est en tant que gardien. Okay. Gardien de la mairie et gardien du village.
Ok.
Ok.
Why not?
Concernant l'argent, je pense que l'argent va à la mairie. Directement.
Ah ouais. Donc c'est la mairie qui envoie, c'est la mairie qui paye.
Ils se payent eux-mêmes.
Ils se payent, voilà, je pense qu'ils se payent eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est du sérieux parce qu'on voit le chien signer les documents officiels sur les photos partagées sur les réseaux sociaux par la mairie. Bugging Dumont sur Facebook, si vous voulez aller regarder. En tout cas, il a été très bien accueilli.
Ça m'intrigue, là.
Il a été très bien accueilli, ce chien. Et on peut dire que c'est le premier chien à avoir un CDI.
Mais ah moi, oui. dans mon village, il y a un chien qui est là tout le temps. Et lui, je crois qu'il n'a pas de CDI. Hein. C'est pas juste pour faire signer. Hein.
Il n'a pas de contrat. Il n'a pas signé de contrat.
Ça, ah, c'est exactement. Pas cool. Hein.
C'est pas nouveau, les animaux sur les lieux de travail.
Mais je sais qu'il voulait le faire pour les procès, pour les enfants. Quand il y avait des enfants dans les procès, il voulait qu'il y ait un chien pour les aider psychologiquement. Je trouve ça trop bien.
Mais les chiens, c'est important.
Qui s'occupe du chien après.
Nous, à l'orchestre, c'est intéressant, mais nous, à l'orchestre, souvent, pendant les répétitions...
Non.
T'imagines, mais ça va venir. Mais on a des chiens pour des personnes en visuel qui viennent s'entraîner avec du bruit qu'on fait avec nos instruments. Ouais. Du coup, pendant les répétitions, ils viennent pendant une heure, ils s'en vont avec des gens. C'est hyper intéressant.
C'est intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant de voir... L'importance d'avoir un prêt dans un chien, c'est rassurant, quoi.
J'allais le dire, Tony.
Et j'ai une dernière info, et je vous pose une question pour commencer.
Hein.
Et là, ouais, je continue, j'espère que je vais la maintenir. Quel est votre plus gros mensonge pour ne pas aller au boulot?
Mais ça, on a déjà eu cette conversation. Hein.
Exactement.
Moi, je mens pas.
Moi,
non,
attention,
non,
je ne sais pas si tes boss t'écoutent.
Non, je peux pas, en fait, parce que, en fait, si je vais pas, vraiment, il faut que l'orchestre engage soit à peine un collègue à moi, soit qu'ils engagent quelqu'un de l'extérieur et ça coûte vraiment beaucoup d'argent.
Donc, pas de mensonge.
Je peux pas.
Ok, Carlos et Écline. Edouard, tiens.
Alors, moi, je mens beaucoup sur les transports. Mais
d'accord.
En fait, la SNCF, ils sont tellement forts qu'ils sont dans le vrai. Quand je dis qu'il y a des problèmes de train, il y a vraiment des problèmes de train.
Ah oui.
Donc,
mais
en fait, c'est pas vraiment un mensonge.
C'est ta faute s'il y a des problèmes de train. Tu les prévois. En fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont besoin, qu'il n'y ait pas de problème.
C'est vrai.
Il a anticipé. En tout cas, je vous conseille, moi, de pas mentir. En tout cas, de ne pas faire comme Gary Maloney. C'est un Irlandais qui a décidé de prendre une semaine de vacances, sans congé, évidemment, sans prévenir son patron. Il a décidé de s'envoler pour le Portugal.
Oh, bon, bonne destination.
Ça va,
bonne destination.
Il est excusé.
Voilà, jusque-là, tout va bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les patrons de la boîte où était employé Gary se trouvaient aussi à l'Algarve. Et plus précisément à Albufeira pour un mariage familial. Bon.
Avance.
Vous imaginez la suite. Il va dans un bar, notre Gary, et là, il croise l'un de ses directeurs au Portugal.
Le monde est petit.
Et la suite, elle est étonnante.
Ah oui, le monde est petit. Hein.
À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé quand il croise son directeur?
Il s'est un peu fait en guirlandais.
Ils ont bu une bière ensemble?
Ouais, mais ça, c'est les Irlandais, ils envoient une à chaque fois. Donc
ouais, c'est vrai que peut-être qu'ils
Je pense quelque chose
ensemble.
De bien, non, il a été promu.
Tu crois ton directeur, t'es pas censé être en vacances.
Gary, t'es au Portugal, allez, promotion.
Bah, normalement, il est viré, non?
Bah, normalement.
Ouais, mais si
normalement.
Elle pose la question, ça, c'est pas
advertissement.
Le cas.
Et bien, au lieu justement de. Bon, tu vois ton boss au bar, t'es pas censé être en vacances, t'es censé fuir, t'es censé te cacher. Gary, il fait quoi? Il va voir son directeur, il décide de prendre un selfie avec lui et de l'envoyer évidemment à tous ses collègues qui sont restés en Irlande.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Travailler.
Exactement.
Bon, ce qui s'est passé, c'est que le directeur commercial a vu le cliché et je vous laisse imaginer la suite. Tu l'avais prédit, Carlos.
Ouais.
Gary retourne en Irlande et le lundi, il est viré. Bon.
Comme ça, il a vu la photo. Il est pas censé être sur la photo.
C'est l'un des directeurs.
Non. Ah, c'est
le directeur, c'est directeur commercial
j'ai
qui
très,
gérait
très
le business.
J'ai eu très très peur que ce soit sur la photo qui ait vu la photo.
Donc Nacha Gary, il est viré, mais l'affaire ne s'arrête pas là car elle fait l'objet d'un examen juridique. Car pour Gary, la plainte n'est pas justifiée. Donc. N'accepte pas d'être
en Irlande. C'est vrai qu'en même temps, aller au Portugal, ça excuse tout.
Oui, exactement.
Donc voilà, c'était les infos insolites. Ça va, niveau insolite, le niveau quand même cette semaine était
bien,
pas mal.
Voilà, il y a Loïc de Portugaliste France qui nous dit que Gary est un génie.
Gary est un
génie, mais sans emploi.
Exactement. Gary est au chômage. Merci en tout cas d'être avec nous et d'avoir suivi l'échange de la semaine. On se retrouve juste après une petite musique de Clara Luciani pour la rubrique de Julie, Ushkada Nujda Julie, qui nous présente un nouveau livre en portugais. Restez bien avec nous sur Radio Alpha.
Je ne suis qu'un imbécile, allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine. Jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce.
brosse et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché.
Aujourd'hui, tu nous proposes de découvrir en portugais un nouveau livre, La Grosse, de Isabel Figueiredo.
Exatamente. A semana passada falei-lhes da editora Chandane e, como prometido, hoje quero apresentar a obra da rentrée littéraire da editora A Gorda, de Isabel Figueiredo, que foi publicada em 2016 na editora Caminho. A tradução acabou de ser publicada pela Chandane no dia 31 de agosto de 2023, ou seja, faz mesmo pouco tempo. E só para saberem e para destacar o trabalho dele, a tradução foi efetuada por João Viegas. Mas antes de contar-lhes a história deste romance, sabem quem é Isabela Figueiredo? Já ouviram falar de uma obra dela ou dela?
Ouvi falar dela semana passada, quando tu falaste dela.
E eu ouvi nas redes sociais.
Eu ouvi há cerca de uma hora atrás.
Eduardo?
Não, pai de tudo.
Ok, Isabela Figueiredo então nasceu em 1963 na cidade de Maputo, que era antes chamada Lourenço Marques, de pais portugueses. Em 1975 teve que sair de Moçambique depois da independência do país e viveu primeiro uma década sem os pais em Portugal, já que estes tinham ficado na antiga colónia, ou seja, Moçambique. Começou uma carreira de professora de português e jornalista, escrevendo nomeadamente pelo Jornal de Notícias, que todos conhecemos.
Sim.
Publicou em 2009 o seu primeiro livro, Caderno de Memórias Coloniais. Não sei se já ouviram falar desse livro.
Não.
Foi primeiro publicado na editora Angelus Nous, não sei se eu digo bem, e logo depois de ter esgotado a primeira edição, pela Caminho. Em 2016 foi publicado o romance A Gorda e em 2022 Um Cão no Meio do Caminho, na editora Caminho. Já recebeu vários prémios e faz parte dos grandes autores contemporâneos portugueses, nomeadamente por falar das antigas colónias e dos retornados. Sabem o que são os retornados?
Eu espero aí pela explicação.
É o equivalente dos pieds noirs franceses, ou seja, são os portugueses que voltaram das colónias sendo portugueses. Perceberam?
Sim.
E foram muito mal recebidos pelos portugueses que viviam em Portugal. Eram tratados de racistas e de ter feito muito dinheiro lá, de ter aproveitado da colonização, etc. Mas o melhor é irem ler os livros da Isabela para perceberem. Tá bem? Ou também o livro O Retorno de Dulce Maria Cardoso. E aliás, o livro Caderno de Memórias Coloniais foi publicado e traduzido em francês pela editora Chandane em 2021. Então não hesitem se estiverem interessados, chama-se Carnet de Mémoire Coloniale em francês e ganhou o prémio de leitura do Festival de Literatura Européenne de Cognac em 2022, o que é interessante porque foi muito mal recebido em Portugal este livro. A Gorda foi muito melhor recebido. Porque fala de um assunto que as pessoas não, do qual as pessoas não querem falar, que é o retorno e as antigas colónias.
Uhum.
E agora, voltando a La Grosse, não sei se conseguem imaginar a história, mas acho que está um bocadinho no título, não é?
Pai, nem por isso, sinceramente.
Ah, é?
Já estou uma semana, não fui ver a internet de propósito para guardar a surpresa, mas estava mesmo a pensar do que é que este livro podia falar.
E já te vou dizer. É a história de Maria Luísa, uma mulher bonita, inteligente e com uma forte personalidade. No entanto, é retornada, já perceberam o que é, e em excesso de peso, o que complica a vida dela em Portugal. Uhum. Se consegue esconder a sua história, a sua infância, o facto de ser retornada, não consegue esconder o peso dela, o que complica as relações com os outros. Como podem imaginar, conta-nos também uma incrível história amorosa com muita paixão e emoção. A escrita de Isabela Figueiredo é incrível e permite-nos entrar mesmo no romance com uma grande sensualidade, força, maneira cru, mas com humor. É uma história que acaba por tocar-nos a todos, mas dá mesmo vontade de ler. E eu tive a sorte de ver a Isabela na terça-feira e deixo-vos aqui com umas perguntinhas que eu fiz à Isabela.
Então, a sua primeira obra é autobiográfica,
sim.
Mas A Gorda é mais um romance, não é?
É uma autoficção. Uma autoficção significa que nós nos baseamos na nossa vida real e inventamos, criamos por cima, desenvolvemos um assunto real e desenvolvemos mais, criamos mais ficção acerca daquele assunto, porque não é... Imagina, não é suficientemente interessante ou precisa de um bocadinho mais de trabalho narrativo e nós inventamos por aí fora.
E qual é o limite entre os dois?
Não há limite. Eu não quero abrir o jogo, eu não quero dizer a verdade, eu não quero dizer-vos qual é a parte verdadeira e qual é a parte falsa.
Está bem.
Porque já me aconteceu muitas vezes pessoas pensarem que o falso é verdadeiro e que o verdadeiro é falso.
É o jogo também.
E eu adoro isso. Eu adoro isso.
É o melhor.
Então eu não digo, se bem que algumas coisas sejam impossíveis de esconder. Eu fui uma mulher gorda, eu fiz uma cirurgia para redução do peso, eu vim de África como a Maria Luísa. Eu tive um namorado que me teve vergonha de mim por eu ser gorda. Portanto, algumas coisas são totalmente inspiradas na minha vida real, mas depois também há a ficção.
Obrigada, Isabel. E agora já sabem o que fazer, vão comprar o livro. Resumindo, La Grosse, de Isabela Figueiredo, na editora Chandaigne, disponível em todo lado.
Merci Julie, n'hésitez pas donc à aller en librairie vous procurer le livre d'Isabelle Figueiredo, La Grosse. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Termstadt 2.1. Merci d'être avec nous sur Radio Alpha pour l'émission de Cap Magellan de 14h à 16h, c'est la deuxième heure. Et on est toujours avec Carlos Ferreira, clarinette soliste de l'Orchestre National de France et professeur depuis peu de clarinette au Conservatoire de Versailles. Toujours en forme Carlos?
Ouais, toujours en forme, j'adore être ici, c'est cool.
On est très contents en tout cas de t'avoir avec nous. Tout de suite, on va découvrir un artiste. Avec Tony, on a l'habitude justement de se plonger dans plusieurs univers, notamment la musique. Et Tony, aujourd'hui, cette semaine, on écoute un artiste qu'on a attendu en boucle cet été. Carlos, t'as été au Portugal cet été?
Ouais, pendant un mois. Mais bon, je sais pas si j'ai écouté. Hein.
Je pense que si. Mais par contre, c'est pas du tout le même style que la clarinette. Hein.
C'est un artiste
là, c'est vraiment...
vraiment
les deux opposés.
Mais même si on voulait passer à côté, on pouvait pas. Alors.
On pouvait pas.
Ah, ouais. Ah non, non.
On pouvait pas. Et dans la vie, vous savez, il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui vous intriguent, il y a des choses qui vous font plaisir. Et puis il y a Pedro Mafam, lui, il vous énerve parce que vous l'avez entendu à la radio tout l'été.
Trop.
Qui vous fait plaisir aussi, malgré tout, parce que sa chanson donne la banane. Mais qui vous intrigue parce que bon, c'est pas grand chose de lui. Mais
c'est
ça,
vrai.
C'était avant que j'intervienne, parce que dans quelques minutes,
merci,
il n'aura plus aucun. Je t'en prie. Il n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant, évidemment, la fameuse question. Qu'est-ce que vous avez gagné, Kida?
Queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais, e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo, e há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais, e há tanta coisa que ainda está para vir.
Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida?
Olari lolei, olari lolei,
olari lolei.
Bailar assim sabe tão bem,
bailar assim sabe tão bem.
Olari lolei, olari lolei,
olari lolei.
Beijar-te assim sabe tão bem,
beijar-te assim sabe.
Ai, esta vida é uma roda que nunca dá certo, mas tá a ficar lá perto. Quando tu rodas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já tá a sorrir para mim,
tenho uma vida linda
e o amor que eu sempre pedi.
Ai, ai, ai.
Tô a partir-me todo para virar um bom partido. Tô a subir salários, nem me junta
vai ser um sim. Bailar assim sabe tão bem.
Bailar assim sabe tão bem.
Depois de tanto que eu passei,
bailar assim sabe tão bem.
Bailar assim sabe tão bem.
Depois de tanto que eu errei,
depois de tanto que eu errei,
beijar-te assim sabe tão bem.
Nossa forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar por essa noite fora até o sol raiar.
Carlos, je me tourne vers toi. Est-ce que cette musique, on l'a pas trop entendue?
Ah ouais, moi j'étais dans des mariages, on entendait ça tout le temps. Mais c'est cool en fait.
Il dans la voiture. De...
En fait, on sait pas trop quoi en penser de cette musique. On aime bien, mais.
En fait, tu l'entends au début, t'es en mode oh non, et au final, tu chantes.
Oui, exactement.
Tu chantes, tu danses.
Exactement.
Tu dis oh encore, et puis il arrive le refrain et tu fais tes petites vocalises là.
Allez. Edouard, t'en penses quoi?
Moi, je l'ai beaucoup trop écouté, donc j'ai enlevé mon casque pendant l'extrait.
Ah ouais,
ah ouais. Carrément.
Je t'ai pas regardé, je suis sûre que tu dansais en vrai.
Ouais.
Ça donne le sourire. Et puis nous, on est là pour vous donner le sourire.
Ah oui.
Donc bon, chez vous, tous les samedis, on est là de 14h à 16h pour vous faire plaisir. Et Pedro de Moinfarme, pour venir à lui, c'est pas un musicien. C'est un véritable créateur musical. C'est un artiste qui va prendre plusieurs pièces d'un puzzle différent, qui va les assembler, qui va se faire son propre puzzle. Et ces pièces de puzzle, en général...
C'est un peu flou, là, ce que tu me dis. Hein.
Tu prends plusieurs puzzles différents qui n'ont rien à voir l'un à l'autre, tu les assembles, donc normalement, ça ne fait rien du tout. Et bien, bah, vu que c'est Pedro Mafama, ça fait quelque chose de génial. Et lui, ces pièces de puzzle, il les prend du fado, du hip-hop et de la musique électro le plus souvent. Mais c'est très, très, très souvent un succès, comme on vient de l'entendre.
Et en plus, le clip, surtout le clip, je me dis, mais attends, d'où sort cette idée qu'on a un merde. Je me dis, mais...
Bah, c'est logique, c'est pour les
c'est le mélange.
D'où
c'est
sort l'idée de tout en fait.
C'est l'intro.
C'est à quel moment tu fais une musique qui s'appelle Preset. C'est là qu'il faut commencer.
Il prend des pièces de puzzle complètement différentes.
Ah oui, non, mais c'est
Preset, il a pris de la musique et il a assemblé. Et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça rend pas bien. Mais vu que c'est lui, ça rend très bien.
T'imagines si c'était nous, oh là là.
Tu sais qu'en parlant de succès, il y en a un qui a beaucoup plu au portugais. Et je pense que vous n'êtes pas au courant qu'il en est à l'origine. Et je vous laisse découvrir ça en musique.
Passe os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Por a mala no porão, saborear a primavera numa espera e na estação. Um dia disse uma andorinha.
E ué.
Bah, tu m'apprends quelque chose.
Eh
là.
Oui.
Je savais
j'adore
pas du tout
cette musique. Non, pourquoi on a coupé la musique là? J'étais bien là.
Parce que là, on parle de Pedro Mafama surtout. Mais oui, c'est lui qui a écrit et composé Andorinhas, l'un des plus grands succès de Yanamoa.
C'est génial.
La musique
portugaise. Vraiment. Il était dans l'ombre derrière. Ben t'en ouais. Tout le temps, quoi. Oh.
Et tu vois, ça n'a rien à voir entre Playstyle et là, mais c'est lui qui en a l'origine aussi, tu vois.
Wow.
Et maintenant qu'on parle d'Yanamoa là, tiens. Autrement dit, la femme avec qui il vit au quotidien. Celle avec qui il a une petite fille, le moment est venu donc d'écouter.
Ah, mais j'étais pas au courant.
Attends, on fait une pause.
Et oui.
Tu les scoops là.
Enamor et Pedro Mafama sont en couple.
Ah bon?
Ah,
et ils ont une fille.
Mais attends.
Qui s'appelle Emily.
Oh.
Emilia.
Là, franchement, tiens, une info people là. Là.
Là, il fallait sur les enfants insolites.
Tony, tu voles le créneau de Léa, là.
Et ouais.
J'aurais pu rajouter ça.
Non, mais
non, refais.
Mais ouais, ils sont en couple. Depuis quelques années, ils ont une fille.
On comprend mieux le succès, alors.
Trop mignon.
Et justement, donc là, il a écrit un dueling, il l'a composé, il est en off, mais ils sont aussi tous les deux sur scène ensemble, notamment sur Agar et Imi, une chanson sur laquelle ils unissent leurs voix et leurs univers.
Nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se a noite nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Nada fica para mim, nada fica para ti, sem ser a faca e essa velhaca que ontem nos matou.
Se eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair, se eu te contasse o que vai aqui, tu já estavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto-vivo. Eu fui bandido e eu sei disso, estava a fugir ao compromisso. A beijar santas no altar, não me importo, diz que disse. Eu vi a faca a cintilar e gritei calma-te antes disso. Eu tenho amor para declarar e coisas a declarar ou fiz. Está escrito no papiro, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro até ser mordido por ti. E quando eu já falar sozinho, lá no final do caminho,
Léa était encore surprise en off du couple Un amour et Pedro, ma femme.
On en parlait justement, mais je pense que nos auditeurs aussi sont surpris. Hein. Ils ont appris l'info.
Mais personne m'a prévenu avant. Fallait faire la recherche, mais personne n'en a parlé.
En même temps, laissez-les tranquilles, ils font leur vie.
Ouais, exactement.
Après, moi, je me dis, être en couple avec quelqu'un qui fait la même chose que toi, surtout dans un métier artistique, ça peut être compliqué aussi.
Ils sont discrets.
Mais pas tant que ça, parce qu'ils se cachent, ils s'assument complètement, c'est juste nous qui sommes complètement à l'ouest, mais bon, c'est pour ça qu'on est là.
En même temps, ils ont le droit de vivre leur vie tranquille. Mmh.
C'est pour ça qu'on est là aussi.
Moi, j'aimerais pas aussi qu'on m'embête quand je suis avec mon amoureux ou mon amoureuse.
Mais pour terminer, avec Pedro, ma femme, c'est un homme de défi. Hein. Il le dit, pour lui, une chanson, c'est l'équivalent d'une montagne. Au fur et à mesure qu'il travaille dessus, il gravit des mètres jusqu'à arriver au sommet. Et puis une fois qu'il est tout là-haut,
il y a trop
descendre.
De métaphores dans ta rubrique là, Tony. J'ai un c'est peu du mal à suivre. Hein.
C'est pas moi, c'est lui. C'est lui.
Les pièces de puzzle, les montagnes. Là, je vais faire des cauchemars de puzzle, des montagnes en puzzle là.
C'est pas moi, c'est lui qui le dit. Il compare ses chansons à une montagne qui gravit à chaque fois qu'il compose la mélodie, qu'il écrit les paroles. Mais une fois qu'il a fini la musique, il faut redescendre la montagne pour refaire une autre musique.
Et c'est beaucoup de montagnes. Hein.
Et ouais, là, il est en train de redescendre la montagne Precept, mais il est certainement en train de faire sa plus grosse descente. Celle de son plus grand succès jusqu'à aujourd'hui, mais prépare dès là ses prochaines ascensions. L'artiste Liz Boet célèbre aussi son deuxième album. Attention, le nom, accrochez-vous, c'est digne de Pedro, ma femme. Le nom de l'album, Stave no abismo, mas dei um passo em frente. Et des pas, justement, on lui souhaite d'en faire beaucoup, beaucoup plus encore, sur scène et sur la route. Et la route, tiens, Strade, c'est le titre d'un des morceaux de son dernier album.
Attendez, vous pensez qu'il pourra faire un son aussi incroyable ou plus incroyable encore que plus certes?
Enfin, on verra, l'avenir le dira.
C'est pas une question d'incroyable, mais une question de aussi populaire.
Le premier aura toujours une saveur particulière, que ce soit pour lui ou pour lui.
C'est vrai. Sûr, c'est le carton. Et on se quitte avec Estrada de Pedro, ma femme. On se retrouve juste après pour l'interview de Carlos Ferreira, clarinette soliste de l'Orchestre National de France, mais aussi professeur de clarinette au Conservatoire de Versailles. A tout de suite, après une courte pause sur Radio Alpha.
Embora como uma estrada, eu conheço cada curva da tua cara, cada subida é uma descida acentuada, é uma paisagem com perigo de derrocar. Como uma estrada, é liberdade, mas no fundo é limitada. Eu quis voar e tu abriste as minhas asas. Mas no final era uma prenda envenenada. Camarada, eu tô na estrada pra escapar as tuas garras que me prendem e amarram. Ai, eu nem te digo nada. Camarada, eu vou pra estrada. Os dias a tentar lembrar de te esquecer,
demorar.
Eu faço figas todos os dias para que esta noite eu não te volte a ver. Quase não sobrevivia, encantado na magia, nos olhos de uma víbora, uma cascavel. Dias quentes, noites frias, no deserto que é uma vida sem tocar.
Cette semaine, dans Tiemstadt 2.1, vous allez découvrir le parcours de l'un des plus grands clarinettistes, on peut se le dire, Carlos Ferreira. Merci d'être avec nous.
Ah, merci pour l'invitation.
Alors, tu es clarinette soliste à l'Orchestre National de France, qui, je le rappelle, est l'un des plus grands orchestres au monde. Et tu as remporté les prix les plus prestigieux de clarinette. Et à côté, tu es professeur. Tu as eu ton premier cours hier, justement. On va en parler. Mais avant, on va reparler de ton parcours à toi. D'où vient ce talent? La clarinette, depuis quand elle fait partie de ta vie?
Oui. Alors, moi, j'ai commencé la clarinette à 5 ans, mais c'est grâce à mes deux frères,
qui sont plus âgés que moi, qui en fait au Portugal a cette tradition des bandes philharmoniques qui on va jouer dans les dans la fête des aldeias. Et en fait, moi, quand j'étais gamin, je suivais la banda pour suivre mes frères qui sont à la banda. Mm-hmm. Et du coup, je voulais commencer la clarinette. La musique, en fait, en général.
La musique, en général.
La clarinette, c'est un peu un hasard. Je voulais faire la percu avec mon frère, mais après, il a commencé à me donner cours. Il était très exigeant, voilà. Et moi, j'en avais marre. Je l'ai envoyé bouler. Et après, j'ai dit clarinette parce que mon meilleur ami, au cours de la théorie de la musique, était clarinettiste. Et je commençais. C'était un hasard, c'était un choix. Ouais.
Destin. Voilà.
Exactement, je dirais.
Et tout a commencé donc à l'orchestre d'harmonie de ta ville natale, au Portugal, à l'âge de 5 ans. À 5 ans, est-ce que dans ta tête, tu t'imaginais aujourd'hui ici faire carrière justement dans la musique?
Non, même en fait, malheureusement, je savais même pas qu'on pouvait être musicien professionnel. Genre,
de toute façon, à 5 ans, tu penses juste à ton goûter, non?
Oui, exactement.
Enfin, en tout cas, moi, c'était ça à 5 ans.
Moi, c'était au foot.
Toujours à 21 ans.
Toujours à 21.
Moi, je jouais au foot beaucoup, tout le temps. Donc, franchement, moi, je pensais, je veux devenir joueur de foot, quoi.
Finalement, non.
Finalement, non, mais j'ai décidé, j'aimais trop la musique, mais j'ai décidé à l'âge de 10 ans, environ.
Et la clarinette, donc tu en faisais à côté du foot, à côté de toutes les passions.
Ouais.
Mais tu as appris rapidement à jouer de la clarinette ou...
Oui, en fait, quand j'étais petit, j'avais pas cette conscience, mais... On m'a dit rapidement que oui, j'étais assez doué pour jouer l'instrument. Ouais.
Dès qu'on t'a offert une clarinette à ta taille, du coup.
Oui, exactement. Ouais. Parce qu'avec la grande, c'était pas possible.
C'était compliqué au début.
Ah oui, c'était très, très compliqué.
Il y a eu des larmes.
Ah oui, beaucoup de larmes. La première fois que j'ai essayé la clarinette, c'était... Oh, merde. Je pouvais pas la jouer, c'était trop grande pour mes mains. En fait, il y a un doigt qui était coincé dans un trou de la clarinette.
Oh, ça doit faire mal.
Du coup, voilà. Mais depuis que j'ai eu la petite clarinette, qui s'appelle comme ça, là, c'était tout a changé. C'était un nouveau monde.
Ça y est, un nouveau monde s'ouvre à toi, une nouvelle carrière commence.
Mais tous les enfants, ils commencent avec la petite?
Non, non. Normalement, ils commencent peut-être avec une clarinette un poil plus petite, mais pas celle-là. Mais attention, parce que quand je dis petite clarinette, on joue à l'orchestre avec cette clarinette-là. On a une famille d'instruments, on a quatre instruments différents. Ouais. Et à l'orchestre, il y a quelqu'un qui a ce poste avec cette petite clarinette. C'est beaucoup plus aigu, en fait.
Quel est ton modèle à toi, actuellement, de clarinette, justement?
Modèle, c'est-à-dire marque et modèle. Donc, la marque, c'est Buffet Crampon. C'est une marque, les meilleures marques de clarinette, de toute façon, sont à Paris, sont en France. C'est Buffet Crampon. Et d'ailleurs, moi, depuis juin, je travaille aussi pour la marque. Je suis ambassadeur. Et aussi, je développe et je forme des nouvelles idées pour des nouveaux modèles.
Et là, on est sur une grande clarinette, alors.
Ouais, donc c'est la clarinette en si bémol. Moi, je Buffet Crampon, le modèle s'appelle Légende. Alors, les noms des clarinettes ont toujours des noms un peu clichés.
Un peu marrant.
Comme Muse, Prestige, Divine, etc.
Elle s'appelle comment,
Nathalie? Légende.
Légende. Comme toi, tu rentres dans la légende. Ça donne à l'artiste, hein, peut-être. Est-ce qu'au cours de ton parcours, tu as eu des professeurs, des artistes, justement, qui t'ont influencé aussi, qui t'ont aidé?
Beaucoup.
L'importance dans ce milieu, justement, d'être bien accompagné aussi?
Oui, en fait, sans être bien accompagné, malheureusement, on peut pas... En fait, il faut vraiment que le professeur capte, voit le talent chez l'élève, il le pousse aux limites, en fait. Autrement, avancer, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu cette chance que, quand j'avais 8 ans, on a changé de chef d'orchestre harmonie et je suis tombé sur le meilleur professeur de clarinette au Portugal, jusqu'à 18 ans, qui devient chef d'orchestre. Et lui, il me dit, t'es hyper doué, il faut que tu viennes travailler avec moi. Sauf que son école était très loin, c'était à 70 km chez moi. Mais il a le don de il est tellement bon professeur parce qu'il a le don de la parole. Il arrive à te convaincre qu'il faut que tu travailles, il faut que tu passes des heures avec ton instrument. Et même, donc il a convaincu mes parents à faire 3 fois par semaine ce parcours de 70 km aller-retour. Alors que mes parents, quand même, sont têtus, pour convaincre quelque chose, c'est très compliqué. Mais il a réussi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est quelqu'un que, qu'on est très amis aujourd'hui, on se parle.
Vous avez gardé un lien fort.
Bah oui, bah oui, il est venu à mon mariage, il a fait un discours à mes parents du moment qu'il parle en moi, il pleure et tout, c'est quelqu'un très, très important dans ma
vie. Et là, tu parlais de 70 km pardon, à aller-retour, mais j'ai l'impression que généralement, pour tes études, t'en as fait des kilomètres.
Ouais.
À Porto, à Madrid, Amsterdam, en Lausanne.
Oui. Après, c'était l'avion. C'était pas mes parents qui me ramenaient.
Oui, j'imagine que à partir d'un moment, là, tu pouvais y aller seul. Mais pourquoi autant de changements au cours de tes études? Est-ce que c'était un choix ou est-ce qu'on n'a pas le choix justement?
Bien sûr, on a le choix de rester dans la même, dans le même endroit. Après, chacun a ses envies, un peu ses ambitions. Mon ambition, c'est un peu drôle parce que quand j'avais 11 ans et mon professeur, le jour de mon mariage, je pense, le matin, quand il m'a vu, il a sorti une rédaction que j'avais fait quand j'avais 11 ans où j'avais écrit que mon rêve, c'était de vivre à Paris et de jouer dans un orchestre à Paris.
Wow.
À 11 ans. Donc, il m'a sorti ça comme quoi j'avais tout réussi. Mais pour ça, pour arriver là, bah, il y a les ambitions, ça peut changer. Mais moi, je suis un peu comme mes parents, je suis un peu têtu. Et du coup, j'ai fait ma licence à Porto, mais après, il fallait aller plus loin. Donc, quand j'avais 11 ans aussi, 10 ans, j'avais écouté ce clarinettiste incroyable français. Et je me suis dit, bon, je veux travailler avec lui. Et du coup, voilà, j'ai essayé Paris quand j'avais 16 ans, le conservatoire, j'ai pas réussi. Quand j'ai fini ma licence, il était professeur à Madrid. C'est pour ça que je suis allé là-bas.
D'accord.
C'est pour ça d'abord. Et après, en fait, un de mes orchestres préférés au monde, c'était Amsterdam. Et du coup, je suis allé là-bas et je suis devenu académiste dans cet orchestre aussi. Donc, je faisais mon master et en même temps, je jouais avec cet orchestre. Voilà.
Donc, combien d'années d'études au total?
En fait, beaucoup de... je sais pas.
Parce que tu as commencé à 5 ans,
oui.
Ensuite, tu as eu le master.
Donc, j'ai fini scolarité en 2020-2021. Je suis allé...
Donc, c'est mais récent.
Oui, c'est assez récent, mais en fait... À la musique, on s'arrête pas, je veux dire.
Toujours apprendre des choses.
Oui, exactement. J'apprends toujours, j'évolue toujours. Donc voilà. Même si parfois j'ai un truc important à faire, à jouer, à enregistrer, à CD, etc. Je vais voir quelqu'un, je vais le jouer mon programme à quelqu'un qui va me guider, va dire, parce qu'avec ses oreilles extérieures, ils peuvent entendre d'autres choses que moi, je suis habitué à mes petits défauts de chez moi, voilà. On va dire comme ça, donc on n'a pas de fin d'études.
On continue toujours à apprendre, et maintenant, c'est toi qui transmets justement ta passion.
Oui.
Tu es professeur au conservatoire de Versailles, tu enseignes la clarinette. Donc, premier cours. Première pression aussi, j'imagine.
Oui, j'étais hyper stressé. Alors, j'ai l'habitude de donner cours en tant que masterclass. Ouais. Donc, je suis invité souvent Portugal, Espagne, France, Italie, Angleterre, Allemagne, partout, à donner masterclass. Ça dure 2-3 jours où j'accompagne les élèves des autres. Donc, j'ai pas une responsabilité énorme, mais j'adore ça.
Oui.
Alors là, pour le coup, ça change la donne parce qu'ils sont mes élèves. Je suis responsable...
En plus,
c'est un âge, ça touche un âge, c'est de 18 ans jusqu'à, je sais pas, le plus âgé, il a 26.
Ils sont combien à peu près?
Mes élèves, j'ai 8 élèves.
Oui.
Ouais. Et du coup, ils me parlent de, hier, c'était un peu, on commençait le cours à parler de leurs projets, leurs rêves, etc. Bah, j'ai aussi la responsabilité de les mener jusqu'à ces rêves, qu'ils évoluent le max pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc
c'est une grosse responsabilité,
mais voilà, j'espère réussir. On verra. Je vais apprendre
sans
aussi à
doute.
Être professeur.
Évidemment, etc. ça s'apprend avec le temps. Et je me posais justement la question, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par la musique classique? Je te pose la question d'abord en France. Est-ce que tu remarques?
En France, je pense qu'un peu moins, de moins en moins, au Portugal, beaucoup plus. En fait, la différence, c'est qu'au Portugal, c'est vraiment gratuit. Donc, les élèves peuvent aller jusqu'à l'année de terminale
gratuitement et faire ses études. En France, il y a quelques villes où c'est gratuit, où par exemple, si on habite dans certains quartiers de la ville, c'est gratuit, mais si on habite dehors, on paye. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 2000 euros l'année, alors quand on a deux enfants, trois enfants, ça.
C'est
certainement, il y a une réduction, mais bon, ça commence à être beaucoup à l'année. Donc, en France, un peu moins d'intérêt, mais, et on voit ça dans les salles de musique. Ouais. Quand j'étais à l'Orchestre Lille, là-bas, oui, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup, beaucoup de jeunes, toutes les ethnies. Mais, où je travaille, à Maison de la Radio, 16e, non. Pas trop, c'est plutôt un public plus âgé, avec les billets sont très chers aussi, je dois dire. C'est contre moi, mais franchement, c'est quelque chose qu'on en parle beaucoup, nous, les musiciens, avec la direction de la radio, c'est il faut que ce soit accessible.
Peut-être plus accessible.
Exactement, il faut que ce soit accessible, parce qu'on voit l'exemple d'Allemagne, où les billets sont accessibles.
Sont beaucoup moins chers. Ouais. Est-ce que justement, dans ces codes si précis, dans cette université si renfermé, est-ce que la musique classique vise à s'ouvrir, à se moderniser ou tu penses justement que non
Non, mais si, déjà, on fait beaucoup de concerts pédagogiques pour les écoles, ça c'est déjà quelque chose de très bien parce qu'il faut créer un public et qu'ils aient quand même un lien avec la musique. Et après, il y a des orchestres dans la maison de la radio où je travaille, il y a deux orchestres. Il y a un autre orchestre qui s'appelle l'Orchestre Philharmonique Radio France. Eux, ils font des projets avec des chanteurs pop, chanteurs de musique différente, musique africaine, musique indienne, etc. Et on voit que
ça
le public, le public qui vient, comment ils sortent du concert, parce que parfois on a soit un concert de musique classique normal, nous, à côté, donc parce que ce sont deux salles qui sont presque à côté. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut créer ça et faire un peu de fit, non, comme ça existe. Il faut vraiment créer ça. Moi, au Portugal, j'ai eu l'opportunité, quand on a eu Guimarães comme la capitale européenne de la culture, on a fait des concerts avec des groupes. Et c'est au pavillon Montijo, Guimarães. Donc, du coup, on avait genre 15 000, 20 000 personnes.
Ça permet de s'ouvrir à un public qui ne connaît pas forcément la musique classique.
C'était génial, même pour nous. On était avec les casques et tout ça. C'était cool, c'était vachement bien et il faut que de plus en plus il y ait ça quand même.
Et comment on réussit justement à trouver sa place dans ce milieu-là, avec tous ses codes, son exigence
En tant que public ou en tant que musicien?
En tant que musicien, justement, en tant que jeune qui veut se lancer, persévérance, en fait, c'est
l'accompagnement. Il y a beaucoup de persévérance parce que Par exemple, avant de venir ce matin, moi, j'ai pris ma partition, que j'ai répétition lundi. J'ai dû déchiffrer une musique nouvelle que je connais pas, passer un peu des heures à jouer, même pas au tempo, en dessous de tempo, à faire des exercices sur des petits extraits où c'est très difficile. C'est-à-dire, c'est pas joyeux.
Ouais.
Donc, il faut vraiment aimer, il faut vraiment avoir cette passion, être intelligent pour résoudre les problèmes assez vite aussi. En fait, il faut du talent, en fait, je trouve aussi, mais avec le talent, il faut vraiment beaucoup travailler. J'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche, il faut vraiment que je travaille quand même quelques heures mon instrument.
Parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on n'est pas musicien, on pratique pas, mais combien d'heures il te faut en général la semaine? Tu comptes pas les heures?
Je compte pas les heures parce que c'est une habitude pour moi, c'est pas une charge. Mais je me rends compte quand je travaille, quand j'ai pas de répétition ou quoi que ce soit, mais je dois quand même travailler à la maison, que je passe 4 heures par jour en moyenne à travailler.
Sans compter tous les voyages que tu fais, dois faire. Tu voyages à travers le monde aussi grâce à ta musique, c'est un des points positifs.
Oui, c'est génial. En fait, je connais beaucoup de pays grâce à la musique. On voyage beaucoup, on connaît beaucoup de cultures et c'est génial.
Tu parles plusieurs langues du coup, c'est l'avantage aussi.
Ouais, exactement. Comme j'ai été un peu dans quelques pays, j'ai appris les langues de ces pays. Mais bon, pas le néerlandais quand même.
Non.
C'est
dur cette langue.
C'est vrai que
la langue, c'est dur.
C'est extrêmement compliqué.
Ça ressemble un peu à la
langue. Ouais, c'est ça le problème.
Là, tu parles déjà l'anglais, le français, le portugais.
Et l'espagnol. Exactement.
L'allemand en cours,
c'est un peu obligation, pas obligation, parce que je vais jouer souvent là-bas.
Mais c'est très dur, compliqué. Hein, ouais. Ouais, c'est très, très dur.
C'est extrêmement compliqué comme langue. Je reconnais. Pour avoir fait des cours d'allemand.
Déjà, parce que le verbe.
Et oui, tu apprends des choses sur moi.
Le verbe, il est à la fin des phrases, je crois. Il y a un truc
du coup, il faut vraiment écouter jusqu'à la fin de la phrase. Autrement.
Ah ouais.
Ouais, c'est la grammaire allemande qui est compliquée en fait.
Ouais, c'est extrêmement compliqué. On va faire une courte pause lors de cette interview. On se retrouve juste après. On va parler de ton premier album, 2021. Ouais. Oui. Que tu as publié, ça va faire bientôt un an qu'il est dispo.
Ouais, exactement.
On va justement en parler, on va juste faire une courte pause et on se retrouve juste après sur Radio Alpha. Radio Alpha. Vous êtes sur Timeshift 2.1 et nous sommes toujours en interview avec Carlos Ferreira, clarinet soliste à l'Orchestre National de France. C'est bien ça?
Oui, exactement.
Je me suis pas trompée. Justement, je voulais qu'on parle maintenant des différents concours. Tu as inventé les plus prestigieux concours, justement, de clarinette. Et je me demandais comment ça se passait, un concours de clarinette, les critères de sélection aussi.
Bon, les critères, c'est un peu qui est le meilleur. c'est un peu abstrait, mais dans la musique, on apprend un peu ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Et chacun a sa voix, chacun est unique. Après, on est le concours. Alors, ces grands concours sont différents des petits. Ils sont très connus parce que c'est un peu comme les grands chelems de tennis où on a 5 tours. C'est-à-dire qu'on commence maintenant avec un tour d'enregistrement, on est environ accepté 200 et quelques. Mm-hmm. Et puis on est convoqué à 60 à être sur place. Et sur place, on est à 60 pour 4 tours. Donc, et on arrive 3 en finale. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça dure pendant 2 semaines. C'est beaucoup de pression, beaucoup de... Ouais, parce que quand même, être sur place avec les autres clarinettistes, candidats, etc. Oui, beaucoup de temps seul pour s'éloigner un peu d'écouter toujours l'instrument. Voilà, ça se passe comme ça.
Et les deux gros concours, donc c'est le concours international de Genève,
oui,
où tu as remporté un 3e prix,
exactement.
C'est ça. Et tu as un 2e prix au concours international de musique de la ARD.
Oui, exactement.
Et c'est l'un des plus prestigieux concours de...
Oui, exactement. Genève, ouais, Genève et Munich. Alors, Munich, c'est vraiment le grand concours pour tous les instruments. À Genève, il y a d'autres instruments que pour la clarinette, c'est les deux plus grands. Mais il y a d'autres instruments, par exemple, violon, etc., qui ont d'autres concours à eux-mêmes qui sont énormes. Voilà. Mais aussi les concours d'orchestre, c'est un peu pareil. On est aussi environ 100, parce que niveau clarinette, on est beaucoup. Et pareil, il y a un qui gagne. Il y a un à la fin qui gagne, la fin de la journée ou le lendemain, parfois ça se passe en 2 jours.
C'est énormément de
pression.
Oui. Ouais. Et à côté de ces concours, de tous les prix que tu as pu remporter, tu as ton album, ton premier album, intitulé 2021.
Exactement.
Tu n'es pas tout seul, tu es accompagné du compositeur Pierre Manuel Poleil.
Oui.
Comment s'est formé ce duo et comment toi tu as eu l'idée aussi de ton côté de lancer un album?
Alors Pedro, on se connaissait par des amitiés communes, mais on s'était jamais vu. On s'est rencontrés à Amsterdam. On se rencontrait souvent au bar de l'école, c'était à l'entrée du conservatoire. Moi, j'arrivais, je finissais de travailler mon instrument parce que je suis du matin. Et lui, non, pas du tout. Donc, quand je sortais, je le retrouvais. Et on a commencé à parler de foot. On avait une équipe de foot, etc. Mais on a vu qu'on avait beaucoup de choses en commun. On a commencé à jouer ensemble, au Portugal, un peu. Ça a très bien matché dans tous les sens. Du coup, on a déjà fait plusieurs concerts un peu partout. Et c'était lui surtout qui insistait que je devrais enregistrer un disque. Et à un moment donné, voilà, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais choisir le répertoire, c'est compliqué. Et enfin, on a choisi un répertoire du siècle 20 et 21. Donc, la pièce du siècle 21, c'est sa pièce à lui. Il est pianiste et compositeur. Il a déjà quelques albums, 3 ou 4 déjà enregistrés, 3 je pense. Dont un avec que ses morceaux à lui, ce qui est impressionnant. Et voilà, l'idée, c'est lui qui a beaucoup insisté, qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, allez, on va le faire.
Et ça s'est fait.
C'est sorti le jour de mon anniversaire, l'année dernière, le 18 novembre. Et voilà.
Un tour de très beaux morceaux, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe par plusieurs émotions, plusieurs sensations.
Exactement.
Donc, justement, ça peut satisfaire à ce public un peu plus large aussi.
Ouais, exactement, exactement. En fait, c'est un peu des compositeurs qui ont passé un peu compliqué, soit Bernstein parce qu'il était homosexuel, il l'assumait pas trop au début, soit d'autres qui étaient un qui est tchèque qui a dû s'enfuir de son pays, un autre qui était juif qui a dû s'enfuir de son pays. Du coup, il y a ce côté nostalgique de leur pays, beaucoup de nationalisme, un peu folklorique, ouais. Et aussi des deuxièmes mouvements de chaque pièce sont très tristes. Et voilà.
Et on peut l'écouter donc.
Voilà. Donc ça va sortir sur Internet le 16 octobre. Le moment que je ferai un interview avec Antenadores au Portugal et en concert en live à Lisbonne le 16 octobre.
Ouais. Ouais, ça tombe pile poil en moi là.
Exactement. Incroyable. Donc voilà, donc ce sera à 19h le concert en live à Antenadores suivi d'un interview et voilà.
Et là, on va partager les prochaines dates justement, exactement. Les prochaines infos que tu auras, ça arrive. Peut-être qui sait d'ici quelques mois, un autre album sera en préparation.
Ouais, ça c'est en préparation, c'est en préparation.
Merci en tout cas Carlos Ferreira d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Turmstadt 2.1. C'était un plaisir de t'avoir. Bon courage pour tes futurs cours.
Merci beaucoup.
On est sûr que tu vas cartonner. Merci de nous avoir suivis sur Turmstadt 2.1. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine de 14h à 16h. Et niveau bon plan, je vous parle évidemment déjà du salon Partir à l'étranger le 7 et le 8 octobre. Cap Magellan sera présent. On se retrouve dans quelques instants pour Alpha Live et l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.